Chapitre 8, où le lecteur commence à comprendre qui est le pantin de cette histoire. De matin, de jour et de nuit interminables succédèrent. J'étais heureux, souffrant, inquiet. Je crois bien que sur les sentiments contradictoires qui m'agitaient en même temps, la joie, une joie trouble et presque douloureuse dominait. Je puis dire que pendant ces 48 heures, je me représentais 100 fois ce qui allait arriver, la scène, les paroles, et jusqu'au silence. Malgré moi, je jouais en pensée le rôle imminent qui m'attendait. Je me voyais et allais dans mes bras, et de quart d'heure en quart d'heure, la scène identique repassait avec tous ses longs détails dans mon imagination épuisée. L'heure vint. Je marchais dans la rue, n'osant m'arrêter sous ses fenêtres de peur de la compromettre et pourtant agacée, en songeant qu'elle me regardait derrière les vitres et me laissait attendre dans une agitation étouffante. « Mathéo !» Elle m'appelait enfin. « J'avais 15 ans, monsieur, à cet instant de ma vie. Derrière moi, 20 années d'amour s'évanouissaient comme un seul rêve. » J'eus l'illusion absolue que, pour la première fois, j'allais coller mes lèvres aux lèvres d'une femme et sentir un jeune corps chaud plié et pesé sur mon bras. M'élevant d'un pied sur une borne et de l'autre sur les barreaux recourbés, j'entrai chez elle comme un amoureux de théâtre et je l'étreignis. Elle était debout le long de moi-même. Elle s'abandonnait et se raidissait à la fois. Nos deux têtes jointes par la bouche se penchaient ensemble sur l'épaule en haletant des narines et en fermant les yeux. Jamais je ne compris aussi bien dans le vertige, l'égarement, l'inconscience où je me trouvais, tout ce qu'on exprime de véritable en parlant de l'ivresse du baiser. Ah, je ne savais plus qui nous étions, ni rien de ce qui avait eu lieu, ni ce qu'il adviendrait de nous. Le présent était si intense que l'avenir et le passé disparaissaient en lui. Elle remuait ses lèvres avec la mienne, elle brûlait dans mes bras. Je sentais son petit ventre à travers la jupe me presser d'une caresse impudique et fervente. « Je me sens mal, » murmura-t-elle. « Je t'en supplie, attends. Je crois que je vais tomber. Viens dans le patio avec moi. » Je m'étendrai sur la natte fraîche. Attends, je t'aime, mais je suis presque évanoui. Je me dirigeai vers une porte. Ah non, pas celle-là, c'est la chambre de maman. Viens par ici, je te guiderai. Un carré de ciel noir étoilé, où se filaient des nuées bleuâtres, dominait le patio blanc. Tout un étage brillait, éclairé par la lune, et le reste de la cour reposait dans une ombre confidentielle. Concha s'étendit à l'orientale sur une natte. Je m'assis auprès d'elle et elle prit ma main. « Mon ami, me dit-elle, m'aimerez-vous ? Tu le demandes ? Combien de temps m'aimerez-vous ? Je redoute ces questions que posent toutes les femmes et auxquelles on ne peut répondre que par les pires banalités. Et quand je serai moins jolie, « m'aimerez-vous encore ? Et quand je serai vieille, tout à fait vieille, m'aimerez-vous encore ? Dis-le-moi, mon cœur, quand même ce ne serait pas vrai. J'ai besoin que tu me le dises et que tu me donnes des forces. Tu vois, je t'ai promis pour ce soin, mais je ne sais pas du tout si j'en aurai le courage. Je ne sais même pas si tu le mérites. Ah, Sainte Mère de Dieu, si je me trompais sur toi, il me semble que toute ma vie en serait perdue. Je ne suis pas de ces filles qui vont chez Don Juan et chez Miguel et de là chez Antonio. Après toi, je n'en aimerai plus d'autres et si tu me quittes, je serai comme morte. » Elle se mordit la lèvre avec une plainte oppressée en fixant les yeux dans le vide. Mais le mouvement de sa bouche s'acheva en sourire. « J'ai grandi depuis 6 mois. » Déjà, je ne peux plus agrafer mes corsages de l'été dernier. Ouvre celui-ci, tu verras comme je suis belle. Si je le lui avais demandé, elle ne l'eût sans doute pas permis, car je commençais à douter que cette nuit d'entretien s'achevât jamais en nuit d'amour. Mais je ne la touchais plus. Elle se rapprocha. Hélas, les seins que je mis à nu en ouvrant ce corsage gonflé étaient des fruits de terre promise. Hein, qu'il en soit d'aussi beau, c'est ce que je ne sais point. Et même je ne les vis jamais comparables à leur forme de ce soir-là. Les saints sont des êtres vivants qui ont leur enfance et leur déclin. Je crois fermement que j'ai vu ceci pendant leur éclair de perfection. Elle, cependant, avait tiré du milieu d'eux un scapulaire de drap neuf, et elle le baisait pieusement en surveillant mon émotion du coin de son œil à demi fermé. « Alors, je vous plais ?» Je la repris dans mes bras. « Non, non, tout à l'heure. Qu'y a-t-il encore ?»« Je ne suis pas disposé, voilà tout. » Et elle referma son corsage. Vraiment, je souffrais. Maintenant, je la suppliais presque avec brusquerie et en luttant contre ses mains, qui redevenaient protectrices. Je l'aurais chérie et malmenée à la fois. Son obstination à me séduire et à me repousser, ce manège qui durait depuis un an déjà et redoublait à la suprême minute où j'en attendais le dénouement, arrivait à exaspérer ma tendresse la plus patiente. « Ma petite, lui dis-je, tu te joues de moi, mais prends garde que je ne me lasse. C'est ainsi ? Eh bien, je ne vous aimerai même pas aujourd'hui, Don Matteo. À demain. Je ne reviendrai plus. Vous reviendrez demain. » Furieux, je remis mon chapeau et sortis déterminé à ne plus la revoir. Je tins ma résolution jusqu'à l'heure où je m'endormis, mais mon réveil fut lamentable. Ah, quelle journée, je m'en souviens. Malgré mon serment intérieur, je pris la route de Séville. J'étais attiré vers elle par une invincible puissance. Je crus que ma volonté avait cessé d'être. Je ne pouvais plus décider de la direction de mes pas. Pendant 3 heures de fièvre et de lutte avec moi-même, j'errais dans la calle Amor de Dios, derrière la rue où demeurait Concha, toujours sur le point de parcourir les 20 pas qui me séparaient d'elle. Enfin, je l'emportais, je partis presque en courant dans la campagne, et je ne frappai point à la fenêtre adorée, mais quel misérable triomphe. Le lendemain, elle était chez moi. « Puisque vous n'avez pas voulu venir, c'est moi qui viens à vous, me dit-elle. Direz-vous encore que je ne vous aime point ?»« Ah, monsieur, je me serais jeté à ses pieds. »« Vite, montrez-moi votre chambre, ajouta-t-elle. Je ne veux pas que vous m'accusiez de nonchalance aujourd'hui. Croyez-vous que je ne sois pas impatiente, moi aussi ? Vous seriez bien surpris si vous saviez ce que je pense. » Mais dès qu'elle fut entrée, elle se reprit. « Oh non, au fait pas celle-ci. Il y a eu trop de femmes dans ce vilain lit. Ce n'est pas la chambre qu'il faut à une bonne cita. Prenons-en une autre, une chambre d'amis qui ne soit à personne. Voulez-vous ? » C'était encore une heure d'attente, il fallait ouvrir les fenêtres, mettre des draps, balayer. Enfin, tout fut prêt et nous montâmes. Dire que cette fois j'étais sûr, rassuré de réussir, je ne l'oserais, mais enfin, j'avais des espérances. Chez moi, seul, sans protection, contre mon sentiment si connu d'elle, il me semblait improbable qu'elle se fût risquée avant d'avoir fait en pensée le sacrifice qu'elle prétendait m'offrir. Dès que nous fûmes seuls, elle défit sa mantille, qui était attachée avec 14 épingles à ses cheveux et à son corsage. Puis, très simplement, elle se déshabilla. J'avoue qu'au lieu de l'aider, je retardais plutôt ce long travail et que 20 fois, je l'interrompis pour poser mes lèvres sur ses bras nus, ses épaules rondes, ses seins fermes, sa nuque brune. Je regardais son corps apparaître de place en place, aux limites du linge, et je me persuadais que cette jeune peau rebelle allait enfin se livrer. « Eh bien, ai-je tenu ma promesse ?» dit-elle, en serrant sa chemise à la taille, comme pour mouler son corps souple. « Fermez les jalousies, Il fait une lumière odieuse dans cette chambre. J'obéis. Et pendant ce temps, elle se coucha silencieusement dans le lit profond. Je la voyais, à travers la moustiquaire blanche, comme une apparition de théâtre derrière un rideau de gaz. Ah, que vous dirais-je, monsieur, hein? Vous avez deviné que cette fois encore, je fus ridicule et joué. Je vous ai dit que cette fille était la pire des femmes et que ses inventions cruelles dépassaient toutes les bornes, mais jusqu'ici, vous ne la connaissez pas encore. C'est maintenant seulement qu'en suivant mon récit, vous allez de scène en scène savoir qui est Concha Pérez. Ainsi, elle était venue chez moi pour s'abandonner, disait-elle. Ses paroles d'amour et ses engagements, vous les avez entendus. Jusqu'au dernier moment, elle se tint en amoureuse vierge qui va connaître la joie presque en jeune mariée, qui se livre à un époux. Jeune mariée sans ignorance, je le veux bien, mais pourtant émue et grave. Eh bien, en s'habillant chez elle, cette petite misérable s'était accoutrée d'un caleçon taillé dans une sorte de toile à voile si raide et si forte qu'une corde de taureau ne l'aurait pas tendue et qui se serrait à la ceinture ainsi qu'au milieu des cuisses par des lacets d'une résistance et d'une complication inattaquables. Et voilà ce que je découvris au milieu de mon ardeur la plus éperdue, tandis que la scélérate m'expliquait sans se troubler. Je serai folle jusqu'où Dieu voudra, mais pas jusqu'où le voudront les hommes. Je doutais un instant si je l'étranglerais. Puis vraiment, je vous l'avoue, je n'en ai pas de honte. Mon visage en larmes tomba dans mes mains. Ce que je pleurais, monsieur, c'était ma jeunesse à moi, dont cet enfant venait de me prouver l'irréparable effondrement. Entre 22 et 35 ans, il est des avanies que tous les hommes évitent. Je ne pouvais pas croire que Concha m'eût ainsi traité si j'avais eu 10 ans de moins. Ce caleçon, cette barrière entre l'amour et moi, il me semblait que dorénavant, je le verrais à toutes les femmes, ou que du moins elles voudraient l'avoir avant d'approcher de mon étreinte. Pars, lui dis-je, j'ai compris. Mais elle s'alarma tout à coup, et m'enveloppant à son tour de ses deux petits bras vigoureux que je repoussais avec peine, elle me dit en cherchant ma bouche, « Mon cœur, tu ne serais donc aimé tout ce que je te donne de moi-même? Tu as mes seins, tu as mes lèvres, mes jambes brûlantes, mes cheveux odorants, tout mon corps dans tes embrassements, et ma langue dans ton baiser. Ce n'est donc pas assez tout cela? Alors, ce n'est pas moi que tu aimes, mais seulement ce que je te refuse. Toutes les femmes peuvent te le donner. Pourquoi me le demandes-tu à moi qui résiste? Est-ce parce que tu me sais vierge? Oh, il y en a d'autres, même à Séville. Je te le jure, Mathéo, j'en connais. Mon âme, mon sang, aime-moi comme je veux être aimé, peu à peu, et prends patience. Tu sais que je suis à toi et que je me garde pour toi seul. Que veux-tu de plus, mon cœur? Il fut convenu que nous nous verrions chez elle ou chez moi et que tout serait fait selon sa volonté. En échange d'une promesse de ma part, elle consentit à ne plus remettre son affreuse cuirasse de toile. Mais ce fut tout ce que j'obtins d'elle. Et encore, la première nuit où elle ne le porta point, il me sembla que ma torture en était encore avivée. Voici donc le degré de servitude où cet enfant m'avait amené. Je passe sur les perpétuelles demandes d'argent qui interrompaient sa conversation et auxquelles je cédais toujours. Même en laissant cela de côté, la nature de nos relations est d'un intérêt particulier. Je tenais donc chaque nuit, dans mes bras, le corps nu d'une fille de 15 ans, sans doute élevée chez les sœurs, mais d'une condition et d'une qualité d'âme qui excluait toute idée de vertu corporelle. Et cette fille, d'ailleurs aussi ardente et aussi passionnée qu'on pouvait le souhaiter, se comportait à mon égard comme si la nature elle-même l'avait empêché à jamais d'assouvir ses convoitises. D'excuse valable à une pareille comédie, aucune n'était donnée, aucune n'existait. Vous en devinerez vous-même la raison par la suite. Et moi, je supportais comme Bernat ainsi. Car ne vous y trompez pas, jeune Français, lecteur de romans et acteur peut-être d'intrigues particulières avec les demi-virginités de Villedo, nos Andalouses n'ont ni le goût ni l'intuition de l'amour artificiel. Ce sont d'admirables amantes, mais qui ont des sens trop aigus pour supporter sans frénésie les trilles d'une chanterelle superflue. Entre Concha et moi, il ne se passait rien, mais rien. Comprenez ce que je veux dire, rien. Et cela dura 2 semaines entières. Le 15e jour, comme elle avait reçu de moi la veille une somme de 1000 douros pour payer les dettes de sa mère, je trouvais la maison vide.